bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième soirée des lundis de Ruralitique spéciale jeunesse. Il ne vous a pas échappé que Ruralitique mettait toutes ses forces cette année sur la question de la jeunesse, que nous nous retrouverons donc à Aurillac les 15, 16 et 17 juin prochains. Et oui, pour une fois, Ruralitique n'est pas en août, mais en juin. Et nous avons souhaité justement permettre à nos amis, nos partenaires, soit Patrice Hulès, c'est le monsieur qui a un casque, qui a une photo de robot derrière lui, un très grand écran, et est environné par tout un tas d'objets technologiques. C'est sa grande passion depuis des années. Et Patrice, donc, est un spécialiste de l'éducation alors STEAM, je le laisserai développer cet acronyme, et donc intervient avec l'ensemble de ses produits et prestations dans les écoles. Et ce soir, il va également nous parler de nouveaux dispositifs émergents qui permettent aujourd'hui d'imaginer équiper encore plus profondément vos écoles primaires dans nos territoires ruraux en matière d'outils technologiques. Vous allez voir, parfois assez surprenant. Patrice, c'est à toi.
Merci. Donc, je prends la main et je partage mon PowerPoint. Ok, tu voyais bien mon écran?
Oui, c'est parfait.
Alors, tu parlais de STEAM éducation. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. J'espère que la session de juin de Ruralitique, ce sera en présentiel. En tout cas, je souhaite de mes voeux. Parce qu'on en a marre, voilà, tout simplement, des Zoom et Teams. Mais bon, on va faire avec. Donc, merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, bon, rapidement, d'Easy, hein, donc de la société que j'ai créée avec quelques collègues en 2014. Et un petit peu de ce qu'on a fait avant rapidement. Et vous parler des concepts. Alors, par exemple, Sébastien parlait de STEAM éducation. STEAM éducation, c'est le terme anglo-saxon. Aujourd'hui émerge le terme français STEAM. Alors, STEAM ou STEAM éducation, c'est un acronyme pour science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas que des ordinateurs, c'est pas que des tablettes, c'est plein de choses. Il faut qu'on recommence à faire des sciences à l'école, il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille faire plein de choses. Donc, nous, on s'est spécialisé là-dedans. Je vais continuer. Alors, je disais, on a 15 ans d'expérience. Avant de créer EasyTeach avec quelques collègues, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé pour une société américaine et j'ai visité le monde entier. J'ai eu la chance de visiter des écoles, je sais pas, pour donner des, en Ouzbékistan, en Afrique du Sud, en Australie, en, je sais pas, dans des dizaines de pays avec, en travaillant pour une société qui développait du matériel numérique pour les écoles. Donc, c'était à l'époque des tableaux interactifs, hein. J'ai travaillé pour un des fabricants. Et j'ai appris énormément, énormément de choses. Et pour certaines raisons, il y a quelques années, pour essayer aussi de créer quelque chose par moi-même, j'ai démarré avec des collègues, on a créé EasyTeach et on s'est lancé sur le sujet qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire le premier degré, la maternelle et l'école élémentaire. C'est vraiment, et on pensait qu'en France, en termes d'équipement, c'était là où il y avait le plus de lacunes, donc c'était là où on voulait investir. Donc on travaille beaucoup sur l'éducation. Et en particulier, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale. Malgré qu'on soit une petite équipe, on est bien référencé de par notre expertise, de par la veille qu'on réalise sur les différents dispositifs dans les différents pays. Alors, je travaille aussi pour une association qui s'appelle l'AFINEP, qui est l'Association française des industriels du numérique de l'éducation. Je suis un des vice-présidents et je participe bien sûr tous les ans à Ruralitique, organisé par Sébastien. Un événement qu'on adore, hein, et qu'on espère revoir en réel, en présentiel bientôt. Alors, le numérique, voilà, on va parler de l'approche STEAM. Donc, c'est quelque chose qui tourne autour de l'apprentissage en jouant, la créativité, la collaboration, la résolution de problèmes. Il y a un petit diagramme que vous voyez sur la droite, hein, qui va expliquer assez bien. Vous l'avez sûrement déjà entendu maintes fois. Bon, les métiers qu'on proposera à nos enfants qui sont actuellement dans nos écoles primaires, n'existe pas pour la plupart, et il faut développer dans tous ces métiers des compétences et une connaissance de l'environnement numérique seront nécessaires. Alors on peut aimer, ne pas aimer ça, mais c'est quand même une réalité, et il faut que nos enfants dans leur cursus, si ce n'est pas familial, au moins dans leur cursus éducatif, aient accès et soient mis en situation d'utiliser ce type d'outils Alors, je ne suis pas du tout un complètement pro-numérique, ce n'est pas une obligation, loin de là. Hein. Mais il y a certaines choses, il y a certains outils qui sont vraiment intéressants. Alors, je vais expliquer rapidement, hein, je vous montre le diagramme, tout ça, vous l'aurez à disposition. Hein. C'est le sujet actuellement de la pensée critique qu'on va développer, la collaboration, la créativité, la résolution de problèmes, la pensée informatique. Ce sont des éléments, je ne vais pas développer chaque élément, mais qui sont à prendre en compte aujourd'hui dans un cursus de formation et qui sont des compétences, hein, ce sont les fameuses compétences du 21e siècle, qui sont demandées pour la plupart des métiers de demain et pour aussi beaucoup de métiers d'aujourd'hui. Donc nous, on essaye de travailler à faire de la veille internationale. Je me déplace régulièrement, alors en Asie, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en France, hein, voir ce qui se passe de bien dans les régions, pour essayer de proposer des solutions qui permettent de faire évoluer, de faire améliorer les compétences des élèves. Alors bien sûr, avec toujours l'enseignant qui est au cœur du système. Hein. Encore une fois, l'outil, dans mon point de vue, c'est un outil. L'outil numérique, c'est juste un outil. Ce n'est pas une obligation en soi, mais il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez sympas et qu'on ne pourrait pas faire sans le numérique. Alors rapidement, pour parler de notre offre, hein, je ne vais pas montrer trop tous les catalogues, mais globalement, on a commencé petit, mais on s'est assez développé. Aujourd'hui, on a une offre assez conséquente, hein, avec différents sujets. On travaille aussi sur la petite enfance. Énormément de choses sur la petite enfance, plutôt des produits anglo-saxons, des produits autour de l'image, autour des sensations, autour des lumières, des couleurs, enfin plein de choses sensorielles, plein de choses qui ne sont pas encore très installées en France. Et on a une offre, c'est le petit catalogue violet que vous voyez à gauche. Alors on vous enverra le fichier, vous pourrez aller voir par vous-même. Hein. C'est un catalogue qui fait quand même plus de 300 pages avec énormément de solutions. Et là, on est sur le 0-3 ans, plutôt le 0-6 ans, puisqu'on a aussi des produits qui sont pour la maternelle. On a une offre qui est vraiment numérique pour les écoles. On va aussi jusqu'au collège, bien entendu. Et là, ça tourne autour de tous les sujets. Hein. Beaucoup de choses autour du langage, autour de... Alors bien sûr, les outils de base, hein, les tableaux interactifs, ce genre de choses. Mais on n'est pas les plus spécialisés là-dessus. On s'est plutôt développé sur d'autres types d'outils. Alors, je vais rapidement, je ne sais pas si le lien va fonctionner, vous me direz si vous voyez, ça va apparaître bientôt. Je vais rapidement vous montrer quelques pages du catalogue pour vous donner une idée. Il est bien sûr à disposition. Bon, c'est les joies d'Internet. Ça va démarrer, ça ou pas, on verra. Voilà, et je sur le prochain catalogue qui est à droite, le bleu, on a fait aussi des offres spécifiques. Voilà, on a le catalogue qui va apparaître. Vous me direz quand vous le verrez.
Il faut que tu changes ta fenêtre. Il faut que tu... Parce qu'en fait, c'est une sélection de fenêtres sur Zoom. Donc, il faut que tu départages et que tu repartages la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte.
D'accord. OK. Il n'apparaît pas encore. Hein. Je pense que le double zoom plus l'accès Internet n'est pas fabuleux. C'est pas très grave. Je vais revenir sur le PowerPoint. Et on continuera comme ça. Je n'ai pas d'autres liens à montrer, donc c'est pas très grave. Donc vous me dites quand vous voyez le PowerPoint.
C'est bon.
OK. Donc, vous aurez l'occasion de parcourir nos catalogues. On peut les envoyer aussi. On les a en format papier, mais on essaye de favoriser le digital aujourd'hui. Et des offres qu'on avait fait spécifiquement dans le cadre des écoles numériques innovantes et ruralités, un petit programme qui a été mis en place par le ministère. Voilà, je continue. Alors, en 2020, on a participé avec le ministère à une opération. Je ne sais pas si peut-être vous en avez déjà entendu parler. Ce sont les territoires numériques éducatifs. C'est une opération qui a eu lieu sur deux départements. Département de l'Oise et département du...
Val d'Oise et l'Aisne.
Et on a été un des partenaires de cette opération et l'État a financé un certain nombre d'équipements pour équiper en particulier les écoles. Il y a eu quelques équipements dans les collèges, mais le gros des solutions était à destination des écoles. Alors, au niveau des équipements, on était plutôt sur des équipements, le mur pédagogique, soit un écran interactif, soit voilà, des caméras, des tablettes, ce genre d'équipement. Alors, c'est un programme qui a démarré en septembre. Il y a eu 27 millions d'euros mis par l'État 27 000, avec directement, on demande, alors, il n'était pas demandé de participer à la collectivité, bon, tout en sachant que quand vous installez ce type de matériel dans une collectivité, il y a beaucoup de choses à faire, il faut gérer les rendez-vous, l'installation, enfin, l'installation, participer, enfin, il y a plein de choses à faire quand même. Donc, il est prévu rapidement que cette année, un certain nombre de nouveaux départements soient élus pour faire la même opération. Alors, je vous ai mis les liens, je ne vais pas aller sur les programmes un par un, mais vous pouvez aller voir sur ces liens, ça vous donnera exactement les niveaux d'investissement qui ont lieu, le type de matériel. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2020, et on attend en 2021 ce même programme pour un certain nombre. Alors, on ne sait pas, entre 10, 12, c'est dans ces zones-là, hein, mais et voilà, et c'est un plan qui est amené normalement à être généralisé sur les années à venir. Je vais laisser le Premier ministre annoncer ça. Mais aujourd'hui, et en particulier le 14 janvier, a été annoncé un nouveau plan. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Alors, c'est un plan d'investissement qui va se faire avec… Alors, c'est un plan d'investissement de 105 millions d'euros sur toute la France, avec une partie sur le matériel, équipement, 85 millions d'euros, et une partie sur les ressources pédagogiques. Et en particulier ce qu'on appelle les ENT, les environnements numériques de travail. Ce plan est publié, hein, il devait être annoncé par le Premier ministre samedi lors d'une intervention, je crois que c'était à Bourges. On était invité à y être et ça a été annulé pour différentes raisons, sûrement l'actualité sanitaire qui n'était pas très propice à ce genre d'annonce. De la même façon, vous aurez tous les liens. Et là, on parle donc d'un plan de relance pour la continuité pédagogique. C'est un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. C'est ce qui a été un petit peu discuté. Vous avez eu des réunions au niveau de l'éducation nationale c'était au mois de novembre sur le numérique éducatif. Ça s'appelait les EGN. Et là, a été discuté les différents besoins dans les écoles au niveau du numérique. Et un des points qui est ressorti, c'est qu'il était nécessaire que la plupart des écoles aient un socle numérique de base au niveau équipement. Alors, bien entendu, on parle des réseaux et autres, hein, la connectivité, c'est quelque chose de super important, mais pas que. Il est ressorti une liste de produits, une liste de solutions qui devenait de plus en plus important de mettre à disposition des établissements scolaires. Alors, sur ce programme de 105 millions d'euros, je vais continuer, vous pourrez aller voir les documents, bien entendu. Ce qui peut être intéressant, c'est que l'État peut subventionner jusqu'à 70% de la dépense. Donc, si vous aviez des projets d'équipement, si vous aviez des investissements à faire cette année, ce programme existe. Alors, c'est suivant les montants, hein, 70% de la dépense jusqu'à 200 000 euros, 50% de la dépense entre 200 000 et 1 million. Je pense que sur les collectivités rurales, il y a déjà de quoi faire des choses. Ce plan est publié. Les interlocuteurs, c'est important, qui seront les interlocuteurs académiques, seront les DAN. Alors, c'est peut-être un terme que vous connaissez, les délégués académiques au numérique éducatif. Ils vont être mis à contribution pour valider les projets. Les projets doivent être validés avant le 31 mars, en tout cas remonter au ministère pour le 31 mars. Alors, tout ça, c'est super rapide, c'est super compliqué à faire. Bon, il y a de l'investissement dans le cadre du plan de relance. Je vais revenir là-dessus. Alors, pour donner, toutes les communes sont éligibles à l'appel à projet. Au-delà des communes, hein, vous avez les différentes possibilités. Et la liste des communes élues sera travaillée avec les délégués académiques au numérique. Alors nous, ce qu'on a fait sur ce programme-là, on est en train de travailler une offre complète, vraiment détaillée. On s'est basé sur l'activité qu'on a fait autour des territoires numériques éducatifs pour la sélection des produits. Je continue un petit peu. Voilà. Où on a repris tous les équipements qui ont été sélectionnés dans le cadre des territoires numériques éducatifs, donc un choix de l'État, un choix du ministère de l'Éducation nationale. On est en train actuellement de finaliser ce catalogue avec des partenaires, les partenaires habituels, hein, de l'Éducation nationale sur le numérique et sur le matériel, Epson, Apple, des caméras, des choses, voilà, tout ce genre. Et on est en train de travailler ce fameux catalogue. Alors, je ne vais pas vous le montrer, on est en train de le finaliser, mais ce sera un petit catalogue, il y a 16 pages en tout, qui sera en papier et en numérique. et qui ira jusqu'à donner la possibilité d'établir son propre devis pour faire ses calculs. Donc, on travaille en amont, hein, d'autres sociétés. Alors, attention, on n'est pas du ministère de l'Éducation nationale, on est une société privée, on va travailler une autre offre. Bien entendu, d'autres offres seront sur le marché. Voilà, on est en train d'essayer de faire quand même un petit dossier qui, même si vous faites pas affaire avec nous, je pense que sera assez utile pour bien sélectionner le type de matériel qualifié pour ce type de subvention. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Voilà, donc voilà un petit peu le programme. Alors, bon, je voulais montrer un petit peu mon catalogue, ce sera fait une autre fois. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en place. Les dossiers sont à répondre avant le 31 mars. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez, voilà, voulez débattre du sujet. C'est beaucoup d'argent. Le dernier plan d'investissement sur les écoles numériques rurales sur la France, c'était 15 millions d'euros. Là, on est sur une centaine de millions d'euros. Alors, bien sûr, c'est toute la France, c'est pas que le rural. Et le plan qu'on appelle TNE, Territoire Numérique Rural, ce sera aussi de l'ordre de 150 millions d'euros. Donc, c'est pas mal d'investissements sur le numérique éducatif. Bien entendu, ce n'est pas évident puisque les mairies aussi doivent contribuer. Donc, il y a une petite part qui peut aller à 30, qui peut être au moins de 30%. Mais nous, si vous voulez qu'on vous aide à préparer un dossier, avoir les offres au moins faites, de quoi remonter votre dossier auprès des délégués académiques au numérique qui nous connaissent, hein, qui nous connaissent tous, hein, un dossier qui remonte, on gérer autour du matériel de EasyTeast n'aura pas mauvaise presse. Si ça vous permet de monter votre dossier, même si après vous utilisez ce dossier-là pour acheter des choses qui sont dans le même cadre, puisqu'il y a un cadre légal d'achat, aucun problème, on sera très content de le faire. Voilà notre proposition. Alors, je ne vais pas rentrer dans le catalogue. Je suis ouvert aux questions. Je ne sais pas si vous étiez déjà au courant de cette annonce. Elle est passée un peu entre les lignes, puisque normalement, il devait y avoir une annonce faite officiellement lors d'un rendez-vous du Premier ministre qui n'a pas eu lieu. Donc, c'est sorti au bulletin officiel. Et bon, je ne suis pas certain que... Il y a eu encore énormément de presse à ce sujet-là. Je suis ouvert à vos questions.
Patrice, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran pour qu'on puisse avoir les vidéos des participants en grand?
Ok. Voilà.
Merci.
C'est bref, rapide, mais c'était l'idée.
Nicolas, est-ce que tu peux me donner la main parce que je vais quand même utiliser ma connexion rurale pour soutenir l'effort de Patrice et montrer le catalogue à l'écran pour que nos amis visualisent le type de produit quand même. Donc, est-ce que tu peux me donner la main sur
voilà, je viens de te donner la main. Je t'en remercie.
Voilà, il y a un certain nombre de choses pour comprendre. Là, on est, Patrice, dans le catalogue École numérique innovante et rurale.
Numérique innovante et ruralité, donc on est sur le même type de matériel. Bon, bien sûr, on travaille avec les plus grandes marques de vidéoprojecteurs. On voit la Web TV là sur la gauche, c'est un sujet qui se développe plutôt au collège. Il y a eu des appels à projets du ministère à ce sujet-là, mais c'est aussi un sujet dans les écoles, cycle 3. Ce qu'on faisait, le journal de l'école qu'on faisait avant en papier, maintenant on le fait sous la forme d'une web TV. De plus en plus d'établissements y viennent. C'est un produit idéal pour travailler sur les compétences du langage, sur l'expression en soi, la confiance, l'esprit critique. Enfin, c'est vraiment des outils hyper intéressants. Alors, ça reste des outils. Hein. Ce qui est important, c'est l'enseignant qui va mettre ça en place. Alors, on va descendre un petit peu, je ne sais pas si j'ai la main. Alors, vous avez sur la droite des petits robots. Alors, ça, c'est quelque chose qui est dans les programmes, hein, la programmation sur le cycle 2 et 3. Mais c'est aussi utilisé à la maternelle, des petits robots très simples de programmation. Et ça, ce sont des produits qui font déjà un carton. On est à plusieurs dizaines de milliers de ces petits robots dans les écoles en France. Alors, il faut que l'enseignant soit un petit peu motivé, mais ça devient presque un standard. Ça faisait partie des territoires numériques éducatifs où il s'en est installé plusieurs milliers. Et c'est plutôt le côté pédagogique de l'outil. C'est-à-dire que c'est un outil qui va demander à l'enseignant de créer des choses autour. C'est vraiment très sympa. La petite boîte en bois là, qu'on voit sur le côté, j'en parle un petit peu parce que c'est assez sympa. C'est une start-up française qui développe ça. Donc, on est dans la head tech française, la French tech. avec des petits outils pour apprendre le langage, pour apprendre, voilà, connecter à une tablette. Outil assez sympa aussi. Alors, on va descendre, si tu veux bien, Sébastien. Merci, hein, en tout cas. Donc, bien sûr, visualisation collective, hein, des écrans interactifs. Alors, pour vous dire, dans le cadre d'une opération comme l'opération de l'appel à projet qui vient de sortir, sur des écrans interactifs, hein, des choses, on va être sur des produits aux alentours, sur un écran 65 pouces, je dis une idée, le niveau de prix sera de l'ordre de 1200 euros. Bien, presque la moitié d'un prix standard de certaines marques, avec des produits très qualitatifs. Du fait de la taille du programme, du fait du quantitatif, les fabricants qu'on a déjà, nous, contactés, puisqu'on travaille déjà en amont sur cette offre, sont prêts à vraiment aider. Et donc, on va être sur des niveaux de tarifs qui n'ont rien à voir avec ce qui est affiché ici. Hein. Ici, on était sur des prix publics sur cette opération et on faisait une remise globale. Donc, mais là, on va avoir vraiment des tarifs hyper intéressants. On va descendre un petit peu. Alors, on a bien sûr sur les systèmes de classe mobile, des outils pour envoyer ces tablettes sur un écran géant. Par exemple, partager 4 tablettes, ça fait partie du socle commun de produits. Donc, on va continuer. Des outils, voilà, des routeurs, des choses un petit peu compliquées, des sacoches pour ranger les tablettes. Enfin, toute cette offre-là est à disposition. On va descendre. Bien sûr, on revient sur l'éducation aux médias. C'est un vrai sujet en ce moment, l'éducation aux médias. C'est un sujet qui nous plaît. Il y a eu quelques appels à projets l'année dernière et en ce moment, on livre quasiment par semaine 4-5 configurations, plutôt dans les collèges, des produits qui partent jusqu'à la Guyane, on en a en Martinique, en Corse, enfin, c'est assez sympa. Alors là, les produits qu'on voit là sont mes préférés. Mur sonore interactif, pince enregistreuse, le petit panneau bavard, sont des produits très peu chers. On a un produit là, le panneau bavard, c'est 27 euros TTC. Ça fait un carton dans les écoles maternelles. Mais vraiment un carton. Et c'est un super moyen de faire venir un enseignant qui n'est pas fondamentalement attiré par le numérique à commencer à travailler par le numérique. Si vous tweetez et vous faites des recherches sur des sujets de l'éducation nationale, l'apprentissage du langage, par exemple, Naramus, c'est un sujet d'apprentissage du langage. Ces produits-là sont pris en main. On en livrera ce mois-ci, je crois, 350 pour donner un ordre d'idée de volume, ce qui est dans l'éducation nationale plutôt pas mal. Et c'est des produits pas chers. Et les enseignants, alors là, si je prends par exemple le petit mur qui est à droite, là, on va mettre des petites étiquettes et sur chaque case, on va pouvoir enregistrer une consigne sonore de 30 secondes. C'est énorme. Ça fait un carton. Alors, je donne toujours l'anecdote, mais ma femme est enseignante en maternelle. Complètement pas. Bon, Sébastien l'a croisé déjà, donc il sait que je mens pas. Elle est venue avec moi sur Aurillac. Donc, on va mettre des petites étiquettes, on va appuyer sur le bouton pour enregistrer la séquence et les enfants au fond de classe en maternelle vont pouvoir récupérer des choses autour du vocabulaire, autour de plein de choses. C'est un produit super. Mon épouse l'utilise, mais aujourd'hui, on a énormément d'utilisateurs. Ce n'est pas très cher, donc les enseignants l'achètent aussi sur la COP. Mais par exemple, une mairie qui veut investir sur la maternelle, on n'est pas obligé d'aller sur du matériel très cher. Avec 150-200 euros par classe, vous faites un super investissement et vraiment hyper intéressant. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on essaye de rechercher, des petites pépites, de petits outils pas trop chers, mais qui ont un super usage dans la classe. On va continuer. Merci, Sébastien. Bon, le même genre, hein, EasySpeaks, on est dans la même catégorie. Là, la robotique, hein, j'en ai parlé avant. Donc, des petits kits d'abeilles. Hein, le kit qu'on voit avec les abeilles transparentes s'appelle Bluebot. C'est ce qui a été installé, entre autres, dans les territoires numériques éducatifs. Donc, un choix du ministère avec, bien sûr, c'est une sélection qu'ils ont fait sur les retours qu'ils ont d'expérience du terrain. C'est vraiment en termes d'apprentissage du code informatique, donc de la pensée informatique, hein, qui est quelque chose qui devient important, comme un langage en soi. On apprenait apprendre l'anglais, l'espagnol, d'autres langages. Le langage informatique, c'est-à-dire être capable d'imaginer comment un ordinateur, un programme va nous renvoyer une réponse, c'est quelque chose qu'on doit connaître. Alors, c'est pas pour ça qu'on va devenir des développeurs, hein, c'est pas du tout le but, hein. C'est d'être capable d'avoir une connaissance globale de l'environnement dans lequel on vit. On sait ce qu'on veut faire avec ce type d'apprentissage. On va continuer à descendre. Alors, Lego Éducation, on est, là, on voit le Spike, c'est aussi un des produits, c'est plutôt cycle 3, ça démarre au cycle 3. C'est un produit qui a été installé dans les territoires numériques éducatifs. L'avantage de Lego Éducation, c'est qu'on va travailler sur la créativité. C'est-à-dire qu'on part de pièces, enfin, on connaît tous Lego, hein. C'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir inventer un robot ou autre, inventer une machine, inventer un mécanisme. Et c'est hyper intéressant parce que les enfants vont vraiment pouvoir travailler, démarrer et travailler la créativité. Donc, un élément hyper important. Donc, avec Lego Éducation. Lego Éducation, c'est une société bon, qui est basée au Danemark, hein, comme Lego. C'est un élément à part de Lego. C'est vraiment spécialisé. On est le partenaire France de la marque Lego Éducation. Donc, très, 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 très bon produit. Hein. Voilà. Alors, après, ce sont des petits produits en kit. Donc, il faut une certaine gestion dans la classe. Il ne faut pas que. Voilà, il faut gérer enfin, le rangement des boîtes à la fin de la séance. Enfin, il y a une petite gymnastique.
Patrice est gelée.
Oui.
Évidemment, elle a un souci de connexion. Il n'est pas en Auvergne, je pense. Pardon, c'est mon chauvinisme qui parle.
Ah, il va revenir.
Continue à vous présenter. Donc voilà, Patrice, c'est effectivement le spécialiste de ces objets-là. Il fait partie également du Maïf Numérique Tour que certains d'entre vous ont déjà vu à Ruralité.
Je suis revenu, hein, je ne sais pas si on m'entend.
Ah, super.
Ouais, voilà, bon, c'est la ligne internet à Goussainville où on habite, où on a les locaux. Donc, rapidement, vous avez une petite.
C'est le problème des zones urbaines. On compatit, ouais. Nous, les ruraux, avec les pauvres urbains et leurs pauvres collectivités. Bon,
je pense qu'on n'est pas. On n'est pas, voilà, pas envié là où on est, mais bon, c'est comme ça. Donc, une autre petite, voilà, une petite liste de robots. Ce qu'il faut savoir sur le marché français aujourd'hui, la plupart de ces produits, même quand ils sont achetés chez d'autres partenaires, hein, ça peut être. Manutan, la Maïf ou autres, au final, viennent de chez nous. On importe ces produits en France. Donc, on a énormément de petits produits. Voilà. Et c'est vraiment notre spécialité. On travaille avec toutes les académies globalement. Et si on descend un petit peu, on est aussi partenaire des opérations qui ont eu lieu. Alors, le Maïf Numérique Tour, qui s'est arrêté à cause de la crise sanitaire, hein, mais qui devrait repartir. Mais il devrait repartir sur 2022, c'est ce qui est prévu. Donc, et on travaille aussi beaucoup avec le réseau Canopé, avec les différents intervenants. On est habituellement constamment en déplacement, et c'est ce qui nous plaît. Bon, ce n'est plus le cas en ce moment, donc, on va essayer de repartir là-dessus. Voilà un petit peu. Alors ça, c'était une offre, on parle des labels École Numérique 2020, c'était une offre qu'on avait fait dans le cadre, un dossier qu'on a fait dans le cadre de cet appel à projet qui était de l'année dernière. Là, vous avez les nouvelles appels à projets. Je pense qu'en fin de semaine, le week-end prochain, on sera prêt avec notre dossier. Un dossier qui expliquera chaque matériel en ayant analysé la demande du ministère, chaque matériel avec des offres aussi spécifiques, bien, bien pricées, qui vous permettra au moins de vous faire une idée des budgets qui sont en jeu, de connaître le type de matériel. Et si vous voulez demander la subvention, pouvoir vous rapprocher avec ce devis des équipes académiques. Donc ça, on est à disposition. Mon mail a été affiché, contact@isitis.com pour le mail général. Sinon, personnellement, vous n'hésitez pas à m'appeler. On va essayer de faire ce dossier, comme on l'a fait pour le dernier appel à projet pour les Web TV, hein, où on est actuellement très, très demandé. Pour vous faciliter la vie. Encore une fois, souvent, sur un appel à projet, il faut avoir un devis pour pouvoir demander la subvention. Derrière, peut-être pour les montants, il faudrait que vous demandiez 3 devis, mais le tout, c'est de pouvoir au moins faire la demande de la subvention dans les temps. Donc, nous, ce dossier-là sera prêt, je dirais, lundi prochain. On sera prêt à l'envoyer et il sera vraiment détaillé. C'est un petit catalogue de 16 pages avec un devis Excel. Vous n'avez plus qu'à mettre les quantités qui vous intéressent. Ça vous donnera le tarif négocié directement et à vous de voir, voilà notre offre, ce qu'on va essayer de faire sur ce dossier. Je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci.
Merci beaucoup, Patrice. Voilà, la parole est libre. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent. immédiatement.
Alors, on a une question de Monsieur Dubois qui dit comment est organisée la formation des enseignants.
Alors, dans le cadre des territoires numériques éducatifs, le réseau Canopé a été choisi pour organiser la formation des enseignants. Le réseau Canopé, alors encore une fois, on travaille bien avec Canopé, est en train de se réorganiser aujourd'hui pour prendre en compte en priorité comme mission la formation des enseignants. Donc ça va être leur mission principale. Alors il faut savoir que sur ce genre de déploiement, quand on vient dans une mairie et qu'on amène ce type de matériel, on prévoit aussi une prise en main. Enfin, on n'envoie pas un carton, hein. Il y a quand même un minimum de prise en main, d'aide technique. Voilà. On travaille souvent aussi dans le premier degré. On connaît énormément ce qu'on appelle les IRUN, qui sont en charge d'aider les enseignants sur le numérique dans les circonscriptions. Donc, on travaille avec ces personnes. On travaille avec les délégations académiques au numérique pour que le matériel qu'on propose soit déjà connu de ces gens-là, donc qu'ils soient capables d'aider. Par exemple, c'est le cas sur les petits robots hein, qu'on a vus. Hein. Ces robots sont connus par les IRUN, par les délégations académiques et par le réseau Canopé. C'est-à-dire qu'ils sont tous équipés déjà, donc ils sont capables de relayer. Et nous aussi, en tant qu'entreprise, on aime venir aider sur place, localement. Voilà, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Après, on essaye aussi dans la sélection des produits de rester sur des solutions plutôt simples. C'est-à-dire l'usine à gaz, on fuit parce qu'on ne veut pas non plus être harcelé de problèmes et de questions après. Donc, on reste quand même sur des solutions qui ont un sens.
Vous pouvez également témoigner de choses qui ont été faites sur votre territoire, hein, qui ont peut-être suscité des questions ou des satisfactions ou des insatisfactions. Racontez-nous. Sinon, j'en choisirais au hasard.
Je veux bien revenir sur cette question-là de la formation des enseignants parce qu'en fait, oui. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de possibilités offertes dans la découverte de multiples produits adaptés à l'âge de chacun avec des côtés ludiques. Vous l'avez dit en intro, je trouve que c'est vraiment très intéressant. On se trouve néanmoins systématiquement confronté à cette question. Alors, c'est récurrent et ce n'est pas nouveau. Oui. Et malheureusement, on fait toujours ce constat-là. Comment on arrive à mobiliser des équipes éducatives en amont du projet pour la définition, justement, enfin pour la réponse à l'appel à projet, puisque les délais sont courts aussi. Comment véritablement on arrive à mobiliser l'ensemble de la communauté éducative? Alors, moi, je suis plutôt positionnée collège, mais j'entends que le discours peut être tout à fait le même sur l'école. C'est une vraie question de fond, parce qu'on se rend compte qu'on a souvent un décalage entre notre ambition, notre énergie, notre volonté à faire et à avancer, et la réalité à la fois du fonctionnement des écoles, voire des collèges, en tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir à l'échelle du Cantal quelquefois. Donc, voilà, je pose la question parce que c'est toujours le même discours, c'est toujours le même constat. Comment on va plus loin? Est-ce qu'on les associe plutôt en amont? Vraisemblablement, d'ailleurs, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une question de fond.
Non, mais c'est une vraie bonne question, je pense, et c'est une vraie problématique. Hein. Et c'est pas une problématique qui vise simplement l'enseignant, c'est une problématique qu'on a à résoudre, tous ensemble. Moi, ça fait peut-être 20 ans que j'essaye d'installer du numérique éducatif dans des écoles. Alors, ça a été beaucoup dans des écoles du monde entier, donc j'ai aussi le point de vue de personnes qui ont une autre mentalité, qui prennent ça différemment. Et je suis aussi confronté à des enseignants français. Mais alors là, il y a une diversité. Hein. C'est assez surprenant. Je donnais le cas de mon épouse, hein, qui n'était pas du tout pro-numérique. Et je pense qu'en maternelle, par exemple, si on parle de la maternelle, il y a des moyens et des outils très simples hein, qui ne sont même pas, on va dire, pas obligatoirement connectés, parce qu'on veut tout connecter, mais il y a du numérique non connecté. Ça fait moins peur, qui permettent de mettre un pied à l'étrier et de les emmener vers des pratiques plus innovantes pour aller plus loin. Après, sur le plan d'équipement qui est proposé en 2021, je pense quand même que bien expliquer, ce qu'on propose globalement à l'enseignant, c'est avoir dans sa classe un grand écran, un écran géant, mais pas obligatoirement un écran géant qui remplace le tableau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va lui permettre d'avoir accès à Internet, à des films, à ce qu'il veut en réalité, à montrer des choses. Quand on l'explique on a eu rarement bien expliqué. Ce genre de. Quand on a l'occasion d'expliquer, on arrive à le faire passer. Moi, je pense que fondamentalement, alors je ne sais pas si ça va plaire, mais quand on a lancé les premiers tableaux interactifs en France, je faisais partie des précurseurs. Hein, j'avais un tableau interactif dans mon coffre et je me déplaçais sur toute la France pour le montrer à droite, à gauche. Et j'ai trouvé à cette époque-là que certains enseignants avaient un peu développé un genre de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, comme ils n'avaient pas, ils disaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Je l'ai vécu, hein, cette situation. Je pense que si le matériel qui est proposé aujourd'hui est de bonne qualité, si on l'explique bien dans des usages pédagogiques, c'est-à-dire que c'est un outil, on explique bien quel usage pédagogique on va pouvoir en faire, ce ne sont pas des matériels compliqués, on a une caméra, alors je vais en montrer une là par exemple, j'en ai toujours autour de moi, ça c'est une caméra, ça vaut 80 €, et ça va me permettre de mettre le travail d'un élève et de l'envoyer sur un grand écran. C'est un usage pédagogique, c'est super simple à faire, il n'y a rien de technique. Quand l'enseignant a compris qu'il pouvait faire ça, ça lui ouvre des possibles qu'il n'avait pas. Mais c'est vrai qu'il y a une pédagogie avant d'équiper et après, il y a la formation. Nous, ce qu'on va proposer en particulier sur les territoires numériques éducatifs, sur les prochains, ce sera de venir en région, de quasiment installer un showroom. On ne peut pas le faire partout, mais on peut imaginer le faire dans certains endroits, un showroom, et de dire « venez nous voir ». On sera au RIAC, hein, par exemple, au mois de juin, mais ce sera trop tard, mais… On peut aussi imaginer de créer des vidéos pour montrer un petit peu les choses, hein, dans le cadre de ce projet. On peut imaginer des sessions de Zoom où on peut discuter avec les enseignants si vous voulez organiser quelque chose à travers Ruralitique, par exemple, où on peut ouvrir un petit peu. Nous, on est ouvert, conscient de la problématique, mais quand même avec de plus en plus d'exemples d'enseignants qui franchissent le pas et qui commencent à y aller. Et quand on revient dans leur classe un an après, c'est fabuleux. Hein, c'est eux qui nous expliquent ce qu'on doit faire du matériel qu'on leur a vendu. Donc oui, mais c'est une vraie problématique. Voilà, elle n'est pas que franco-française. Hein, je gérais l'Europe du Sud à une époque. En Italie, on a la même problématique. En Espagne, on a la même problématique. C'est assez Europe du Sud, hein, quand même. Mais c'est une vraie problématique. Je pense que les mentalités changent aussi. On n'est pas à la même situation aujourd'hui qu'on était il y a 4-5 ans.
Je tiens à indiquer effectivement, pour avoir animé moi-même les états généraux du numérique éducatif organisés par le ministère de l'Éducation nationale et la réunion de restitution des territoires numériques éducatifs fin décembre, sur ces démarches-là, et notamment sur territoires numériques éducatifs dans l'Aisne et le Val-d'Oise, le travail d'accompagnement de Canopée, qu'a cité effectivement Patrice, c'est ça la vraie nouveauté. Et c'est peut-être ça qui jouera un rôle d'accélérateur, parce que jusqu'à présent, effectivement, les enseignants ne pouvaient pas forcément se tourner vers leur IUFM ou leur académie, où est-ce que je vais me former. Là, ils ont un acteur qui est historiquement issu de leur rang, qui est spécialiste effectivement dans l'information et qui devient spécialiste de la formation. Et je pense que c'est vraiment de nature à rassurer les enseignants et à leur permettre d'avancer sur ce chemin-là. Ensuite, on avait une question de Patrick, enfin une remarque, effectivement, le matériel, mais la maintenance, tout à fait, la maintenance, c'est le vrai sujet. Patrice, qu'est-ce que tu réponds à ça par rapport à la souplesse des contrats de maintenance qu'il y a sur le matériel ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a différents types d'équipements. Alors, on a des petits produits, hein, dans l'offre, hein, j'ai parlé des caméras, des choses comme ça. Nous, on est sur un système d'échange, hein, très rapide, un appel, un mail, enfin, on a un côté spécifique avec un échange standard assez rapide, donc ce côté maintenance. Après, il y a les équipements un peu plus complexes d'installation. Donc, dans ces cas-là, je vais parler du projecteur qui est installé au mur ou de l'écran interactif. Alors, sur les écrans interactifs, on a commencé, pour information, comme l'écran interactif. L'écran, c'est ce que vous voyez derrière moi. Je ne sais pas si on le voit un petit peu, mais là, j'ai un grand écran. C'est un écran.
Oui, c'est un vrai écran, ce n'est pas une projection.
C'est un vrai écran, voilà. On a ce genre d'équipement dans notre offre en 65 pouces pour, en hors-taxe, un peu plus de 1 000 €, mais à peine plus de 1 000 €. Donc, ce genre d'équipement, c'est en gros un gros ordinateur, un gros écran. On commence à faire, comme l'ordinateur qui pilote cet écran, c'est quand même l'ordinateur de l'enseignant. L'ordinateur fait partie aussi des équipements préconisés. Donc, un ordinateur qu'on va connecter à l'écran interactif. On commence à faire de l'échange standard sur ces produits. le produit est livré monté sur pied et on commence à, pour éviter, voilà, on a un camion qui vient, qui prend le matériel, qui ramène un autre camion. Comme ce n'est qu'un écran, c'est-à-dire je n'ai pas d'intelligence, je n'ai pas mes fichiers dedans, c'est assez facile à faire. La problématique, c'est quand vous avez vos fichiers, vos produits qui sont dedans, là, on commence à faire ce genre de choses. Et plus le marché se développera, plus des sociétés qui gèrent ça très bien, avec qui on travaille, hein, certaines, vont gérer ce genre d'intervention. Après, on propose aussi, quand on fait des installations dans certaines mairies, ce qu'on propose aussi à la mairie, c'est que les personnes qui gèrent les installations dans les écoles peuvent être très bien avec nous le jour d'installation. On peut les aider, leur montrer. Enfin, il y a soit des forfaits installation, on a quelques mairies. Par exemple, un écran comme ça, le monter sur pied, c'est une manipulation de 10 minutes. Techniquement, il n'y a aucun besoin technique. Donc, on aide aussi, on forme aussi à cette possibilité-là. On laisse ouvert, on crée un dossier en fonction du besoin et de la demande. Et on adapte aussi la maintenance en fonction du besoin et de la demande. Après, ce que je disais sur le gros matériel, on commence à faire des échanges standards. Et juste le projecteur interactif qui, lui, est accroché à un poteau, on va dire, au plafond, où là, c'est un peu plus complexe. Mais on travaille avec des sociétés françaises qui sont capables d'aller, de le changer, de le remplacer si nécessaire. Alors après, une grande chance, hein, ce type d'équipement est de plus en plus fiable. On est sur des taux d'incidence qui sont très, très faibles. Il y a de moins en moins de problèmes. La plupart des problèmes sont des problèmes d'usage, où là, on a la hotline qui va régler ce problème-là assez facilement. L'ordinateur qui n'a pas mis la bonne résolution, l'ordinateur qui n'est pas connecté en HDMI sur le... Voilà. Ce genre de choses est résolu assez rapidement. Je dirais que c'est 90% même plus des demandes et des appels sont autour de l'usage du matériel plutôt que d'un problème technique de maintenance, pour répondre.
Merci.
Alors, les produits seront garantis 5 ans hein, pour information dans l'offre. Donc, ça a été une demande du ministère de l'Éducation nationale hein, dans le cadre des territoires numériques éducatifs de donner une garantie conséquente sur ce matériel-là. Donc, les produits écrans et autres seront garantis 5 ans.
Ça marche.
N'hésitez
pas. Allons faire un tour du côté de Châteauneuf de Galore. Avec Véronique Barnot, si elle veut bien témoigner de ce qu'elle... Comment ça se passe chez elle au niveau des écoles, enfin, comment elle voit ce sujet de l'école numérique? Il vous suffit de réactiver votre micro. Allez-y, cliquez sur votre micro en bas à gauche. Ah. On va se déplacer dans le Lot. On va vous laisser régler ce problème et on va se déplacer dans le Lot avec Marie-Claude Vinel. Qui doit également allumer son micro.
Oui, moi je suis nouvellement élue dans le Lot, donc bon, je... Mais bon, après, c'est vrai qu'on a surtout des problèmes de maintenance et tout, après, pour le suivi et tout ça, auprès des enseignants et tout. Et c'est assez compliqué à gérer, ça. Bon, voilà, que dire d'autre, je ne sais pas.
Aujourd'hui, comment ça se passe, justement? À qui les directeurs d'école font appel ou à qui la mairie fait appel? Parce que chez vous, c'est la mairie qui met à disposition le matériel, donc j'imagine que c'est vers la mairie qu'on se tourne quand c'est une question de maintenance.
Tout à fait, nous avons quelqu'un qui nous vend les ordinateurs qui s'appelle, ça me dit le nom, Ipso, non, c'est pas Ipso, c'est le nom m'échappe. Donc, mais ce sont des particuliers, donc ils viennent installer les ordinateurs, mais voilà quoi. Et s'il y a un souci, on doit à nouveau financer les dépannages, financer. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu sans fin, quoi. Mais bon. Après, ils sont équipés également de tablettes et de choses comme ça. Et ces tablettes, maintenant, sont un petit peu désuètes, disons. Il y a beaucoup qui ne fonctionnent plus. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être fournir, enfin, de rééquiper, disons, l'école. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi, pour voir ce que vous avez à proposer et savoir comment on peut… voilà.
Alors moi, je pense que fondamentalement, les enseignants collaborent beaucoup entre eux sur la pédagogie. Je le vois avec mon épouse hein, qui est enseignante. Enfin, en tout cas, en premier degré, il y a beaucoup de choses au sujet vraiment du pédagogique. Après, aujourd'hui, sur le matériel, bon, je ne connais pas toutes les mairies qui sont autour de la table ici, mais souvent, il y a l'enseignant qui a le tableau interactif dans l'école. Et il est un petit peu seul. Enfin, c'est parce que lui, il a trouvé ça bien, il est un peu plus motivé à utiliser ce genre d'équipement. Mais si le matériel devient un peu un standard de l'équipement de l'enseignant, je pense qu'à terme, on aura aussi de l'entraide entre enseignants sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on démarre de loin quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de pays autour de nous, le taux d'équipement en numérique des écoles, il est à des années-lumière de ce qu'on a en France. Et nos enfants sont confrontés au même monde plus tard. Donc, à un moment donné, au-delà d'être un plus, c'est aussi un besoin. Il faut qu'on passe un cap. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire sans numérique. Je ne reviens pas du tout là-dessus. Mais il y a des choses que le numérique permet et qui permet de faire différemment. Beaucoup de pays autour de nous investissent énormément. J'ai parlé du plan français, qui est un plan conséquent, c'est le plan le plus conséquent sur le premier degré. Et ça, je m'en félicite parce que ça fait longtemps qu'on attendait quelque chose sur le premier degré. Bon, il y a dans les collèges, hein, et c'est très bien aussi d'investir dans les collèges, donc c'est sur le premier degré. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux investissements dans des pays anglo-saxons, dans les pays asiatiques, dans les pays aux États-Unis. On est à des faibles pourcentages de leur taux d'équipement. Et eux, ils ont les mêmes problématiques, sauf qu'ils sont maintenant tellement équipés que l'écran interactif, c'est le tableau. Et donc, quasiment toute l'école est au courant de comment ça fonctionne. Il y a une entraide interne. On n'est plus sur un produit d'extraterrestre. Et c'est un terme un peu… je crois à ça. Après, oui, il faut des gens locaux. Nous, ce qu'on peut faire avec une mairie, quand on parle de la maintenance, il faut bien faire la différence entre la maintenance et l'usage. Hein. L'usage, et en particulier l'usage pédagogique, les équipes locales de la DS2N, les IREN, sont en charge de ça, sont en charge d'aider sur ce genre. Ce n'est pas toujours évident, ils ne sont pas toujours bien équipés non plus. On a un vrai challenge, hein. Ce n'est pas un challenge qu'au niveau des écoles. Hein. Ils sont pas toujours équipés ou complètement formés. Canopée va intervenir de plus en plus. Ça, c'est un plus. Ces équipes-là sont aussi formées. Nous, ce qu'on arrive à faire en tant que société, c'est de prendre, par exemple, dans la région ici, ça nous arrive régulièrement d'avoir les IREN du département 93 qui viennent chez nous et qui sont formés sur nos solutions. On pourrait faire ça en région sans aucun problème. Nous, on demande que ça. On travaille avec l'association, la FTRN, qui est l'association des IREN en France, venir les former sur ces solutions. Si dans une région, il y a du matériel qui s'installe ou pas, on peut venir les former, leur montrer les spécificités des solutions qui vont être installées. Ça, on peut le faire. Et après, il y a le problème technique. Là, le problème technique, c'est vrai qu'avoir quelqu'un local, c'est bien. Nous, on peut s'associer avec une société locale pour avoir quelqu'un vraiment tout près. Il n'y a aucun souci. Là, le produit est garanti, ce qui veut dire qu'on le réparera quoi qu'il arrive. On peut imaginer trouver, alors tout a un petit coût, hein, on va dire un faible coût, mais on peut mettre en place, si on veut vraiment être tranquille, une solution locale en s'appuyant sur, même en étant recommandé par la mairie, sur quelle société sera la plus à même d'être notre partenaire sur cette opération-là. On sait faire ce genre de choses, bien entendu.
Merci Patrice. Patrick Cailleux avait demandé la parole. Patrick, vous pouvez activer votre micro et votre caméra.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Patrick Cailleux, donc, je suis adjoint à la mairie d'Autun sur le numérique, enseignant pendant 37 ans et demi. J'ai été aussi animateur en informatique. Responsable du réseau informatique du CRDP, donc maintenant qu'on appelle Canopée. Moi, ce qui m'inquiète derrière, c'est Bon, j'ai connu le plan informatique pour tous, vous vous souvenez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la maintenance. Parce que je vois sur Autun et la CCGAM, donc la communauté de communes d'Autun, il y a 3 personnes pour s'occuper de la maintenance, qui s'occupent à la fois de la maintenance des mairies et des écoles. Donc, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, équiper toute une communauté de communes avec du matériel va être un gros problème pour la maintenance. À partir du moment où on met des réseaux en place, on sait parfaitement qu'il y aura des soucis derrière d'installation, de maintenance, etc. Et si vous avez 45 communes, les personnes qui vont s'occuper de la maintenance vont être dépassées totalement. Ben, moi, c'est l'impression que ça me donne. J'ai été, pilote d'essai sur une classe pupitre. J'y connaissais quand même suffisamment pour être capable de dépanner. Mais dès que mes collègues passaient dedans, ils avaient toujours un problème.
Non, mais c'est un vrai sujet. Hein. Patrick, je pense que vous avez raison. Hein. C'est un vrai sujet. Il n'y a pas de... Je pense que les solutions... Alors, le plan informatique pour tous, ça a été le mauvais exemple qui nous a plombé pendant 30 ans, mais ou même plus maintenant. Après... les produits ont évolué, les produits sont aussi, dans certains cas, plus simples aujourd'hui, plus matures. Maintenant, oui, réellement, je ne dis pas qu'il y a un problème, moi je dis qu'il y a un challenge. Et cette problématique de... je vois moins la maintenance que l'usage. Vous prenez les 3/4, enfin, pas les 3/4, mais un certain nombre d'enseignants aujourd'hui, vous les mettez face à un tableau interactif qui est un ordinateur. On part de ce côté-là de zéro. Donc, il y a beaucoup de questions et de retours qui viennent d'une non-compréhension, une non-connaissance du produit. Donc, il y a tout un travail, c'est un vrai challenge. Maintenant, fondamentalement, moi, j'en suis persuadé, hein, on ne peut pas rester sans rien faire. Ce problématique de maintenance, il va aussi remonter de par ces investissements. Je pense qu'il y aura peut-être des investissements à faire dans le personnel pour aider. Peut-être que Réseau Canopée devra augmenter ses capacités. Enfin, je pense qu'il y a vraiment la différence aujourd'hui, c'est un plan qui a un sens et qui a un sens dans un environnement pas que franco-français, dans un environnement mondial. On doit amener nos enfants plus loin et nos enseignants par la même occasion, qui font un travail fabuleux en réalité, mais qui pourraient faire des choses un petit peu, et qui ne le savent pas toujours.
Voilà. L'autre question que je me posais, c'était par rapport aux investissements qui devaient être faits ultérieurement, parce que c'est bien d'acheter du matériel actuellement, mais ça veut dire que dans 3 ans ou 4 ans, il faudrait prévoir le renouvellement du matériel qui n'est jamais prévu dans aucune mairie. Et ça, tant que ça n'existera pas, on aura toujours du vieux matériel dans les écoles en attendant d'avoir un nouveau plan qui revienne pour réinvestir dans les écoles.
Je pense que l'obsolescence, il y a encore une fois différents types de matériel. Je sais que dans une offre, par exemple, adaptée à ce nouveau projet, il y a des produits qui... Alors, les produits qui peuvent être potentiellement problématiques sont les tablettes. Une tablette, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend des marques. Hein. Les marques les plus connues sont souvent les plus… Voilà, ça peut être problématique au bout d'un certain nombre d'années au niveau de la batterie. Donc ça, c'est une vraie problématique. Maintenant, les écrans interactifs, ce genre de choses, à mon avis, on en a pour quelques années avant de que ce soit obsolète. Nous, on a commencé à installer des tableaux interactifs dans certaines écoles il y a plus de 10 ans maintenant, largement même. Qui sont toujours en usage. Prévoir alors il y a quand même des coûts hein, de fonctionnement, type la lampe du vidéoprojecteur à changer. C'est des choses à prévoir. C'est des choses, je pense, à remonter dans le cadre de ce plan. Alors, je ne sais pas ce que vaut ma parole, mais je parle à beaucoup de monde. les discussions que j'ai dans ce genre de situation. J'en parle au niveau du ministère, au niveau de voir, je ne sais pas si je suis vraiment écouté, mais c'est, Mais c'est un challenge, il y a vraiment un challenge. Je pense qu'il y a des matériels qui n'auront pas ce genre de problème et d'autres qui potentiellement, oui. Je pense qu'au niveau des ordinateurs, déjà, on a moins cette problématique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, vous achetez un ordinateur, au bout de 2 ans, il était dépassé, les programmes ne tournaient plus. Aujourd'hui, n'importe quel ordinateur de bonne facture qui intègre un processeur un peu puissant, type i5, qui n'est pas le dernier, hein, tourne et tournera dans 2, 3 ans, 4 ans, sans aucun problème avec les logiciels, au moins éducation ou autre. Donc, cette problématique aussi a évolué. Il y a une moins grande accélération sur les matériels qu'on voit dans le plan. Ce sont des matériels qui existent depuis quelques années déjà. Voilà. Après, clairement, oui, c'est un challenge. Je ne le nie pas. Hein. C'est compliqué, mais c'est compliqué dans le monde entier. Hein. Et certains, alors je ne sais pas comment ils gèrent cette partie investissement, mais certains y arrivent, mais tout le monde gère les mêmes problématiques.
Voilà, parce que le problème, c'est qu'en fait, au niveau de l'éducation nationale, on n'a pas adopté les mêmes systèmes que dans les mairies ou dans les communautés communes. Dans ces cadres-là, normalement, au niveau du numérique, on prévoit toujours le remplacement des ordinateurs tous les 3 ans, enfin tous les 5 ans, pour les serveurs ou tous les 3 ans pour les ordinateurs, tandis que dans les écoles, ce n'est pas le cas.
Bah, jusque-là, sur le numérique éducatif du premier degré, moi, quand j'ai commencé dans le numérique, hein, pour faire un peu d'historique, le premier degré n'existait pas, clairement. Enfin, on n'envisageait même pas d'équiper les écoles de quoi que ce soit. Il y a quelques années, hein, je peux remonter un peu loin en arrière. Ça a évolué, ça a commencé en sixième, le numérique. Aujourd'hui, ça commence, on va dire, au CP, voire même à la maternelle. Les mentalités ont évolué, les problématiques. Alors, c'est vrai qu'un collège est plus structuré pour gérer, en plus, le département, lui aussi, est souvent plus structuré pour gérer ce genre de problématiques. On a un challenge en France. Peut-être que ce qui ressortira de ce plan, c'est qu'il faut trouver une idée globale qui fonctionnerait partout. Mais on a un vrai challenge, mais je pense qu'on ne peut pas se passer, voilà. Je vais laisser la parole, parce qu'il ne doit pas rester beaucoup de temps.
Il nous reste 5 minutes.
Je ne sais pas si j'ai pu répondre ou pas.
On entend qu'il y a effectivement des équipes volantes qui vont d'établissement à établissement et qui sont sous-dimensionnées aujourd'hui et que des acteurs locaux qui assurent de la maintenance, qui montent en compétences, qui sont des boîtes privées, peuvent effectivement faire sens et on peut créer comme ça aussi de nouvelles entreprises. Juste avant de donner la parole à Jean-Marc Faure pour aborder la question des réseaux, je voulais juste faire un détour par la Drôme avec Véronique Barnot. Est-ce qu'elle a retrouvé la parole ou pas encore? Non. Bon, ben on vous salue quand même. Hein, revenez la prochaine fois avec effectivement avec votre micro. Mais voilà, vous me disiez dans le chat que vous regardiez ces questions avec intérêt, mais que vous étiez un peu novice. Donc voilà, c'est le début. On est là pour accompagner l'ensemble des élus avec Ruralitic sur ces sujets. Donc la question des réseaux posée par Jean-Marc Faure. Évidemment, le plan France Très Haut Débit. Comment faire utiliser ces outils si on n'a pas un réseau de qualité? Sachant qu'aujourd'hui, le plan France Très Haut Débit qui concerne les zones rurales, il y a déjà donc 5 millions de prises qui ont été posées sur 17. Il en reste 12 à faire en 2 ans. Ça va très vite, mais ouf, c'est quand même un gros rythme. Les établissements scolaires ont été fibrés en priorité dans de très nombreuses régions. Aujourd'hui, quel est, Patrice, le constat que tu fais sur cette question de la connectivité des établissements? Est-ce que c'est vraiment encore un problème? Et Jean-Marc pourra rebondir, bien sûr.
Encore une fois, on voit de tout. Hein. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que le réseau globalement arrive à l'école, mais il ne va pas toujours dans la classe.
Enfin, d'accord.
Ouais, enfin, globalement, c'est ce qu'on arrive à voir, quoi. Il faut souvent réinstaller des prises et autres. Alors, ce n'est pas partout, hein, mais c'est la problématique qu'on retrouve le plus souvent. Il existe le Wi-Fi hein, qui permet d'outrepasser ça, avec bien sûr le cadre de l'utilisation du Wi-Fi dans les écoles, hein, avec des produits qui sont débrayables, des choses comme ça. Mais globalement, on n'a souvent pas la prise qui arrive jusqu'à la classe, quoi.
Après, le numérique… Peut-être avoir un témoignage du Cantal avec Jean-Philippe Lavigne. Comment cette question a-t-elle été traitée dans le Cantal? Parce que je sais qu'il y a eu un effort assez spécifique.
Alors, je ne parlais pas du Cantal. Hein.
mais sur cette question de la connectivité des établissements.
Oui, pour rebondir sur la partie connectivité et également la maintenance, mais dans le Cantal, nous, en fait, on a traité ça au travers d'un projet complet avec l'agence technique départementale, où en fait, on vient en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des communes ou des EPCI pour à la fois réfléchir à la mise en place des équipements, mais en partant de la base. Donc la base, c'est les fondations, c'est le réseau, donc c'est la connexion de l'école et surtout la distribution. Donc je rebondis sur ce qui vient juste d'être dit, c'est la distribution du réseau dans de bonnes conditions dans toutes les salles. Et une fois qu'on a fait ça, d'ailleurs, OK, on peut amener des équipements. Et par contre, une fois qu'on a amené les équipements, il faut former les enseignants. Donc ça, on le travaille avec les équipes de l'éducation nationale. Et nous, derrière, au niveau de l'agence technique, on propose des contrats de maintenance aux communes. Et en fait, on fait beaucoup de maintenance préventive, notamment pour tout ce qui est mise à jour et petits dysfonctionnements. Et on est très peu sur du curatif. Et en fait, on, avec du recul là, sur 4-5 ans, on se rend compte qu'avec 2 jours par école, ça suffit en fait à maintenir des équipements en bonne condition. Et on a de plus en plus de demandes de contrats d'assistance et maintenance. Mais on fait beaucoup de préventifs sur ces thématiques-là. Mais voilà, il faut essayer de vous retourner vers des structures publiques ou semi-publiques qui permettent de passer plus facilement aussi dans les renouvellements, parce que on fait un bilan annuel pour chaque adhérent et on lui propose un plan de renouvellement de ses équipements, en sachant que c'est pas l'agence technique qui vend les équipements, donc on a eu forcément une meilleure écoute auprès des communes.
Merci Jean-Philippe. Un petit tour par la Bourgogne-Franche-Comté avec Corinne Machuret, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la médiation numérique et le périscolaire. Patrice, est-ce que Isitis peut proposer des choses pour les activités périscolaires?
Oui, bien sûr. On travaille aussi, alors j'ai parlé, on travaille aussi sur la petite enfance, j'en ai parlé avant, mais on travaille aussi sur le périscolaire. On est sur des sujets assez particuliers. Alors, je donne un exemple, les Fab Labs. Les ateliers makers, avec des outils un petit peu spécifiques. On est même en train de développer actuellement. Alors, ça sortira bientôt. On fait développer ça en Bretagne par une boîte bretonne. Un vélo électrique Fab Lab. C'est-à-dire que vous avez un Fab Lab sur une remorque à l'arrière du vélo. Alors, un Fab Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un environnement qui permet de créer avec une imprimante 3D, une imprimante laser, enfin une découpeuse laser. Des outils pour créer plein de choses, donc pour faire découvrir aux enfants et en particulier sur le périscolaire la création de la créativité, ce genre d'élément. Donc là, on sortira bientôt, il est en train d'être dessiné un beau vélo électrique qui tire une remorque avec un Fab Lab complet derrière. L'idée, c'est la ville qui peut avoir cet équipement-là et aller le mettre à disposition dans une école à droite, à gauche. Ou pas, hein, ou pour les équipes du centre de loisirs le mercredi. Après, c'est vrai que c'est une vraie question, hein, ce sujet périscolaire et éducation nationale dans l'école. Hein. Moi, j'ai le point de vue de ma femme qui est institutrice et qui, de temps en temps, à son école, l'utilisait. C'est un vrai, il y a vraiment des choses à faire et des choses à discuter pour essayer d'améliorer tout ça. Mais oui, bien sûr que nous, on s'occupe aussi du périscolaire et c'est un élément hyper important. Je pense que la mairie devient de plus en plus importante pour l'école et pour l'éducation dans tous les sujets. Quoi. Voilà.
Bien, les amis, il est 18h31, nous sommes donc en retard d'une minute, c'est une honte. Juste avant de nous quitter, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous active sa caméra pour faire notre traditionnelle photo de groupe. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... et ces éléments qui seront donc en ligne sur le site de Ruralitik, ruralitik-forum.com dès jeudi. Voilà. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.